Hier soir, nous avons surtout traité de l'angoisse universelle, en précisant toutefois que nous ne traitions pas des angoisses pouvant résulter de troubles organiques ou somatiques, comme disent nos savants, c'est-à-dire des angoisses résultant de maladies corporelles, mais des angoisses résultant de troubles psychiques, psychologiques, et qui posent d'énormes problèmes à nos savants. Comme notre ami l'a rappelé ce matin, l'angoisse a pour origine le doute, c'est biblique. Ceci déjà en Genèse 3, lorsque le diable est venu semer le doute dans l'oreille de nos premiers parents. En ces termes, Dieu a-t-il réellement dit ? Et cette même question aujourd'hui est posée un peu partout dans le monde. Dieu a-t-il réellement dit ? En d'autres termes, Dieu a-t-il réellement parlé ? Aujourd'hui, on émet de sérieux doutes sur le fait que Dieu ait pu un jour parler. Et nous nous souvenons aussi de la manière, de la façon dont le diable a tenté de faire chuter le Fils de Dieu. En ces termes au désert, si tu es le Fils de Dieu, etc. Tentant de le faire douter sur ce qu'était sa propre condition de Fils de Dieu. Et nous avons dit que le diable, lui, son rôle est de toujours nous faire douter. Que le doute ne vient jamais de Dieu, que le Christ est venu pour que nous ayons des certitudes inébranlables, et c'est un thème, que je chéris assez lors de mes tournées d'évangélisation un peu partout dans le monde. Je prêche souvent sur le thème « certitude inébranlable pour un monde en crise ». Nous avons besoin de certitudes quant à nos origines, de certitudes quant au sens à donner à notre existence, de certitudes quant à notre destinée, etc. Plus que jamais, le doute s'est insinué partout, jusque dans nos foyers où il y a doute entre conjoints. La confiance, le moins qu'on puisse dire, ne règne plus. Il y a doute au plan professionnel, entre collègues de travail, entre patrons et ouvriers. Il y a doute partout. Et ce doute est un mal considérable et Dieu veut que le doute soit chassé de notre cœur. Il ne veut pas que nous vivions de doute. Nous parlions de l'angoisse hier comme d'une maladie de la conscience. C'est d'ailleurs un Suisse éminent, un psychologue, du nom de Médère, je crois que je devrais dire Maître, pour être dans le mille, pour prononcer juste son nom, le docteur Maître a dit ce qui suit, « L'angoisse est une maladie de la conscience. » Je ne sais pas si le docteur Maître est chrétien. Je ne sais même pas s'il vit encore. Mais enfin, j'ai au moins un livre de ce médecin à la maison qui s'intitule « Vers la guérison de l'âme ». Mais bien avant le docteur Médère, la Bible l'avait déjà dit, il n'y a qu'à lire au psaume 107, que l'angoisse est une maladie de la conscience, et puis notamment ce texte de l'apôtre Paul en Romains 2, 9, qui est percutant, où l'apôtre dit « trouble et angoisse sur quiconque fait le mal ». En d'autres termes, le péché est source d'angoisse considérable. Et la plupart du temps, nous sommes angoissés à cause de notre péché, Romains 2, 9. Donc c'est bien avant le docteur Médère, que la Bible l'avait déjà affirmé. Et aujourd'hui, nous allons commencer de traiter de cet énorme sujet que représente celui de la dépression. En traitant de la dépression, vous savez, on aborde un sujet considérable. Et moi, je ne dis pas qu'en 3 heures de temps, nous allons le cerner. Il y a des séminaires de psychiatres qui durent des semaines, sinon des mois, sur ce thème. Et nos psychiatres n'arrivent pas, j'allais dire, à bout de ce sujet, tellement il est vaste, tellement il touche de domaines, tellement il est souvent mystérieux. Mais nous avons, nous, je dirais, l'avantage, sinon la chance, le privilège, d'avoir le livre de psychologie le plus extraordinaire qui soit. Quel est ce livre ? Non, je n'ai pas sous les yeux un livre de Sigmund Freud, mais la Bible. Et c'est Victor Hugo qui l'a ainsi qualifié. Victor Hugo a dit « La Bible est le plus grand livre de psychologie qui soit ». En son temps, il a affirmé ces choses. Pourquoi ? Parce qu'il a constaté que la Bible, justement, pénètre les profondeurs de l'individu. Quand nous pensons à ce texte des Hébreux qui dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui nous pénètre profondément, n'est-ce pas ? Et qui révèle ce qui est caché très au fond de nous-mêmes, eh bien nous comprenons du même coup que la parole de Dieu est véritablement la parole de celui qui est le divin psychologue, le divin psychiatre, de celui qui sonde les cœurs, les reins, et qui nous connaît parfaitement. Si la psychologie en est à l'heure qu'il est à des tâtonnements, il faut dire ce qui est, j'ai là des réflexions de psychiatres éminents, parisiens, et même de psychiatres de réputation internationale, qui affirment que ils n'en sont qu'à des balbutiements, qu'à des tâtonnements. Encore que la psychiatrie, la psychologie arrive parfois à aider. On ne rejette pas comme cela en bloc ce qu'a dit par exemple un certain Freud. On ne rejette pas en bloc non plus ce que dit la psychologie en général. Nous avons appris beaucoup de choses. Seulement, la plupart du temps, les mécanismes profonds qui régulent, par exemple, l'équilibre de l'homme au plan psychique, au plan psychologique, sont tellement mystérieux que seul Dieu qui les a faits les connaît à fond. Et c'est Dieu réellement qui peut nous aider dans ce domaine, qui peut nous conduire, qui peut nous donner de pénétrer ces mystères, le mystère de l'homme dans ses profondeurs psychiques, psychologiques, mentales. Et j'aimerais, en introduisant cette première réunion sur la dépression, lire un texte très important, se situant en 2 Corinthiens 6. Nous lisons les versets 10 et 11. Voici ce que dit l'apôtre aux Corinthiens. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Une repentance dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et puis un autre texte que nous rappellerons au cours des séances qui viennent, en Philippiens 4, 4, qui connaît Philippiens 4, 4 ? Ah, c'est un magnifique verset cela, hein ? Nous devrions le serrer sur notre cœur. Réjouissez-vous de temps en temps dans le Seigneur. Ah, merci de réagir parce que j'en aurais été attristé. Réjouissez-vous quand ?
Toujours.
Toujours. Dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Voilà ce qu'a dit Paul. Et à partir de quel endroit a-t-il écrit ce texte magnifique qui exhorte à la joie, qui encourage à la joie, depuis où? Depuis le palais de César à Rome, sur une magnifique terrasse, avec en face de lui une vue splendide. Au soleil, il était en train de se bronzer. Mais pas du tout cela, hein? D'une obscure prison, inconfortable prison, hein, qui n'a rien à voir avec nos prisons actuelles en France. Hein, nos prisons sont des prisons chauffées, sont des prisons où il y a la télé en couleur, des prisons où il y a des terrains, des parcs, où l'on peut faire du jogging, du sport, etc. Et où, à la limite, ces prisons peuvent donner envie aux plus défavorisés au plan matériel. Et un commissariat, il y a peu de temps, me disait à Paris, vous savez qu'en hiver, ici à Paris, nous avons des gens qui viennent nous voir vers 11h du soir pour passer une nuit en prison. Parce que c'est chauffé, il y a la télé, etc. Ils sont assurés d'une tasse de café. Et ainsi, ils peuvent échapper éventuellement même à la mort d'une nuit froide et glaciale. Mais les prisons d'alors n'étaient pas du tout cela. Des prisons très inconfortables, où il faisait réellement pas bon vivre. C'est à partir d'une telle prison que l'apôtre a lancé cet encouragement. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. La dépression, son actualité. Parlons de son actualité pour commencer. Il faut que j'ai la montre sous les yeux parce que très souvent, je sais quand je commence, mais je ne sais pas quand je termine. Et je ne veux pas quand même exagérer, abuser de votre temps. Son actualité, eh bien, elle est là, irrésistible. Des hommes et des femmes connaissent un mal-être, comme disent nos savants qui s'intéressent à la dépression, dont l'origine leur échappe, un mal-être, dont l'origine leur échappe souvent, et qui peut conduire au suicide. En Allemagne fédérale, tout près d'ici donc, 64 millions d'ordonnances par an sont prescrites pour ce mal. C'est énorme, hein? 64 millions d'ordonnances. Donc c'est un fléau, un fait social considérable, en même temps que très actuel. Et les caisses de maladie en Allemagne remboursent chaque année pour ce mal-là, pour ce mal de la dépression, 3 milliards de francs français, soit un peu moins d'un milliard de vos francs suisses. Faites le compte, hein. Tout ceci consommé en comprimé. Antidépresseurs. En Allemagne fédérale, toujours pour souligner ce que nous venons de dire, à savoir un mal-être qui peut conduire au suicide, en Allemagne fédérale, on compte une tentative de suicide toutes les 3 minutes. On a comme l'impression que ce pays voudrait se suicider, littéralement, hein. Une tentative de suicide toutes les 3 minutes. En Allemagne fédérale. Or, vous savez qu'en Allemagne fédérale, on vit bien. Le mark allemand est assez fort. Je dirais même qu'il nous ennuie assez en France. Je ne sais pas s'il vous gêne ici. Mais 64 millions d'ordonnances, hein, pour tenter de guérir ce mal qui généralement finit dans le suicide, une tentative de suicide toutes les 3 minutes, un suicide, vous êtes bien assis, réussi en Allemagne fédérale, toutes les 40 minutes, il y en a un qui réussit son suicide. Eh bien, c'est énorme. Ceci donne 13 000 suicides par an en Allemagne fédérale. Tandis qu'en France, nous en comptons 12 000. Et pourtant, notre franc flotte, hein ? Notre franc français est moins fort. Vous savez qu'en Allemagne fédérale, toujours, 30% des enfants en âge scolaire, ça c'est une statistique qui m'a littéralement renversé, 30% des enfants qui vont à l'école ont besoin de calmants. Ils ont besoin de tranquillisants, déjà à leur âge. Parce que justement, vivant dans un climat, d'une manière générale, pas très favorable pour eux, dépressif. En France, je le disais, 95 millions de boîtes d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de neuroleptiques sont vendues par année, ce qui est énorme, absolument énorme, pour ce qui est simplement des tranquillisants. 72 millions de tranquillisants sont vendus. Un lit sur deux, j'ai ici le document qui l'affirme, un lit sur deux en France, à l'hôpital, est occupé par un malade mental. Mais c'est énorme. Un lit sur deux. Trois Français sur quatre. Nous parlons donc du phénomène au plan mondial, hein, pour que nous prenions conscience précisément qu'il s'agit vraiment d'un fait social considérable. À la limite, le mal du siècle. C'est le mal du siècle. Trois Français sur quatre connaissent dans leur entourage au moins une personne dépressive. Il y a 7 millions de déprimés en France. 7 millions de déprimés. 7 millions d'hommes et de femmes en hôpitaux psychiatriques pour dépression, ce qui fait beaucoup plus que la seule population de la Suisse. Imaginez, toute la Suisse à l'hôpital pour dépression. Plus personne chez lui, c'est énorme, hein? Oui, et puis la consommation d'antidépresseurs a triplé ces 10 dernières années. A triplé. Toujours selon ce document que j'ai ici, un Français sur deux se trouve généralement triste sans raison. On est triste comme ça, sans raison. Selon le Nouvel Observateur, qui est un hebdomadaire français, qui passe pour être assez sérieux dans ce qu'il présente de documents, d'articles, etc. En Angleterre, selon un organisme là encore sérieux, qui s'intitule l'Association pour la santé mentale, une fille sur six, tandis qu'un garçon sur neuf, à l'école aujourd'hui, passeront une partie de leur vie en hôpitaux psychiatriques. Rendez compte. En Suède, on a compté il y a peu de temps 20 000 suicides par année. Les Suédois ont battu les Allemands. Pour une population de 20 millions d'habitants, c'est énorme. Et le phénomène suicide est tel que dans ce pays, et vous savez que la Suède est donc un pays, le pays où, dans notre Occident, le niveau de vie est des plus élevés. On vit en Suède un peu comme en Amérique. Certains même disent que le niveau de vie en Suède est encore plus élevé que celui des États-Unis. La Suède est un pays riche, un pays à l'aise au plan matériel. Pourtant, on s'y suicide, mais de façon étourdissante. Et il semble que, à partir de ces chiffres-là, il semble qu'on n'ait pas du tout répondu aux aspirations profondes et fondamentales de l'individu en le comblant au plan matériel. Parce qu'on a longtemps cru que lorsque l'homme vivrait bien au plan matériel, on aurait résolu de cette manière-là une grande partie de ses problèmes. Eh bien, ça n'est pas du tout vrai. Nos savants constatent aujourd'hui que plus la civilisation, la société est riche, aisée, opulente, plus elle connaît de crises et en particulier de dépressions. Le Japon, lui, n'échappe pas au phénomène. Et il fait partie de ces pays où la dépression sévit terriblement. Et pour ce qui est du monde en général, eh bien, le nombre de dépressifs, selon toujours ces documents que j'ai ici, a doublé dans le monde ces 10 dernières années. A doublé. Alors, dans 10 ans, nous aurons encore peut-être doublé, sinon triplé, au rythme de la croissance de ce fléau, de ce phénomène. Il y a, alors qu'il est, dans le monde, 100 millions de dépressifs en hôpitaux psychiatriques pour soin. 100 millions, ça fait deux fois la France. Mais l'OMS, dont je parlais hier soir, et qui passe, comme je le disais hier soir, pour être un organisme sérieux, puisque Suisse, eh bien, l'OMS est d'affirmer dans ce document que ce chiffre de 100 millions n'est pas le vrai chiffre, parce que beaucoup vivent leur déprime en cachette. Et que le chiffre authentique devrait tourner autour de 300 millions. 300 millions de dépressifs. Une enquête récente, présentée par le magazine français Ça m'intéresse, dit ce qui suit: personne n'échappe à la dépression à un moment ou à un autre de son existence. Et savez-vous qu'à l'heure qu'il est, les plus grands laboratoires du monde, et je dirais même que tous les laboratoires du monde, sont mobilisés pour trouver la pilule anti-tristesse, la pilule anti-dépression. Ça, c'est quand même quelque chose. Tandis qu'en attendant, notre monde se gave de médicaments. Parlons à présent de son étendue. Nous venons de parler de son actualité, parlons à présent de son étendue. Nous sommes obligés d'être quelque peu techniques pour commencer. Ceci pour deux raisons au moins. D'abord pour appréhender au mieux la question, le problème. Et puis deuxièmement pour que ceux qui peut-être entendront ces réunions par la voix de cassette puissent se rendre compte que nous ne parlons pas légèrement de cette affaire, mais que nous l'avons étudiée autant que faire se peut, qu'elle nous a intéressés et que nous avons tenté, Bible en main, non seulement de comprendre le fléau, mais aussi d'y répondre. Son étendue, elle frappe partout. Il y a des dépressifs partout dans le monde. Elle atteint toutes les couches de la société. Ça n'est pas du tout une maladie des gens aisés. Encore que, nous le disions tout à l'heure, elle frappe surtout à ce niveau-là. Mais elle touche tous les niveaux. Il y a aussi des pauvres qui entrent en dépression. Elle touche tous les milieux, quels qu'ils soient, toutes les races, tous les âges. Et j'ai là un document assez important à propos des nourrissons. Quand nous traiterons des causes de la dépression, alors je ne reviendrai pas sur ce que je vais lire maintenant, mais un document assez récent m'a, je dirais, très impressionné. Je vous le donne tel que je le lis ici. Jusqu'alors, on connaissait surtout la déprime qui visait le nourrisson. Le psychiatre américain René Spitz, décédé à Denver le 18 septembre 1974, l'appelait la dépression anaclitique. C'est à lui que la médecine doit la première description de cet insolite malaise. Il atteint certains bébés vers l'âge de 6 à 8 mois. De 6 à 8 mois, un bébé peut être dépressif. Ceux qui se sentent abandonnés ou rejetés, qui souffrent des séjours en collectivité, de ce qu'il est convenu d'appeler l'hospitalisme, comme disent les psychiatres, en bref, tous les petits qui ne supportent pas une privation brutale de l'affection maternelle. Le mal se traduit par la montée progressive d'une indifférence à l'entourage. C'est-à-dire qu'il présente presque les mêmes symptômes que les adultes. Elle conduit à un refus total de contact. L'apathie s'accompagne de signes cliniques, perte de poids, troubles de sommeil, des bébés qui ne dorment pas, hein, c'est bizarre. Régression des acquis motriciels et intellectuels, sensibilité accrue aux infections. Diagnostiquer une pareille souffrance, au moins dans ses débuts, n'est pas aisé. Cela suppose une grande vigilance chez les praticiens, car la dépression du nourrisson ne figure pas toujours dans les manuels. La dépression peut donc frapper nos gentils et nos beaux bébés. Imaginez, hein, de 6 à 8 mois. Elle atteint bien sûr les personnes âgées. Elle atteint les jeunes. Elle atteint les adolescents. Elle atteint les enfants. Elle est donc présente au niveau de toutes les tranches d'âge par lesquelles l'homme passe. Elle atteint aussi tous les milieux. Tous les milieux. Et ces gens qui sont généralement enviés de nous pour leur fortune, pour leur succès en affaires ou bien en sport. Il y a peu de temps, Yannick Noah a été interviewé par Jean-Pierre Elkabbach, qui est un animateur de la radio Europe numéro 1. Et Yannick Noah, en pleine dépression, a dit ce qui suit. Yannick Noah, à l'heure qu'il est premier du tennis mondial, un homme qui n'a pas 25 ans, qui est déjà milliardaire. Milliardaire. Yannick Noah qui dit « Je marche toute la nuit dans les rues de Paris, je ne dors pas. Je me trouve sur le pont de l'Alma. Je regarde l'eau à Paris donc. Et je me dis « Je plonge ou je ne plonge pas. » Je me dis « Il y a un problème quelque part. » Et ça, ça me tue. Dans ces trucs-là, je suis seul, je suis trop seul, je suis tout seul. Yannick Noah, dépressif, au fait de la gloire, envié de millions de jeunes Français, pour bien sûr ses succès sportifs en même temps que pour son argent, en pleine dépression. Et puis, il y a aussi les milieux du cinéma qui présentent des artistes dépressifs, Isabelle Adjani. Bien sûr, nous pouvons savoir pourquoi elle peut être dépressive, elle, et qui tourne des films mi figue mi raisin. Hein, eh bien, en jouant un film, en jouant un rôle de femme déprimée, dans le film « L'été meurtrier », que je n'ai pas vu, mais j'ai lu ces choses, eh bien, elle a versé dans la déprime. Et puis on se souvient aussi qu'une certaine Marilyn Monroe, hein, au fait de la gloire, une véritable idole américaine, adulée de tous, hein, a mis fin à ses jours. Elle s'est suicidée. Ça, c'est incompréhensible. Et pour ce qui est des écrivains, eh bien, Gérard de Nerval, écrivain français, ça a été trouvé pendu près des Halles à Paris en 1855. Il a mis fin à ses jours, il était très dépressif. Ernest Hemingway, écrivain américain, lui en 1961 s'est suicidé, auquel nous devons en particulier Pour qui sonne le glas et d'autres ouvrages. Hemingway. Parmi les artistes peintres, un certain Van Gogh, qui s'est suicidé en 1890, et quel artiste néerlandais, il a mis fin à ses jours. Puis, quant aux hommes politiques, atteints de psychose maniaco-dépressive, un certain Thomas Eagleton, un Américain écarté de la course à la Maison-Blanche, a mis fin à ses jours en 1972. Des hommes du monde politique, des écrivains, des artistes, des hommes arrivés au fait de la gloire sont mis fin à ses jours de manière tout à fait incompréhensible. Alors essayons maintenant de cerner la dépression, de tenter, essayons de la définir. C'est quoi la dépression? Selon le professeur Denis Kerr, éminent psychiatre de réputation internationale et qui dirige l'hôpital Sainte-Anne à Paris, faire une dépression, textuellement, voilà ce qu'il a dit dans un article que j'ai ici. Il y a eu en France, dans un journal, une série d'articles très intéressantes sur la dépression. Le professeur Denis Kerr, faire une dépression, c'est passer par un dérèglement de l'humeur. Faire une dépression, c'est donc passer par un dérèglement de l'humeur de l'individu. Pour le professeur Zaharifian, à Sainte-Anne, lui aussi, avec de Nicaire, Sainte-Anne étant à Paris un hôpital spécialisé pour apporter des soins aux malades mentaux. Pour le professeur Zaharifian, c'est une maladie de l'humeur. La dépression est aussi un symptôme de société. Et il ne définit pas de quelle sorte de société. Moi, j'ajouterai ce qui suit. C'est véritablement le symptôme de la société matérialiste. En même temps que le symptôme de la société qui verse dans des pratiques occultes parce que matérialistes. Mais nous aurons l'occasion de préciser toutes ces choses. Et il l'a défini ainsi, c'est un état languide, une maladie qui éprouve tout l'organisme. Tout l'organisme, nous parlions tout à l'heure de mal-être, tout l'organisme est concerné par la dépression. En réalité, selon le docteur Zaharifian toujours, la dépression c'est une lourde tristesse. C'est une tristesse lancinante, en même temps qu'accablante, qui se traduit par une douleur morale intérieure intense, avec un sentiment de culpabilité que rien n'ébranle, avec des ruminations mentales de fautes passées ou présentes, avec la perte de tout plaisir à vivre et de tout goût de vivre. Le regard se ternit, la voix devient monocorde. Le dépressif est sujet aux insomnies, aux pertes de l'appétit, aux désirs sexuels. Il est littéralement assiégé par des idées noires. Il en vient à se dévaloriser lui-même. Il se déprécie lui-même. Il éprouve alors une fatigue inexplicable, retenons bien, au moins de trois termes, hein. Tristesse, sentiment de culpabilité, fatigue inexplicable. Et le docteur Gérard Loeb, lui aussi médecin chrétien, dit ce qui suit, toute dépression, a pour point terminal le suicide quand elle évolue normalement. Tout dépressif est un malade suicidaire en puissance, puisqu'atteint, comme disent nos psychiatres, d'anorexie vitale, perte du goût de vivre. On n'a plus envie de vivre, on est au fond du trou, et tout ceci se traduit, je dirais, physiquement et aussi psychiquement, mentalement, par un ralentissement de l'activité, par des blocages, par une perte des facultés de communication, et le dépressif s'enferme généralement dans un monde intérieur qui lui est propre. Et la forme la plus sérieuse de la dépression, quand elle évolue, c'est la psychose, ou encore la psychose maniaco-dépressive, qui fait perdre tout contact avec la réalité autour de soi. Et cette psychose se traduit souvent de la manière suivante, une alternance de périodes entre l'euphorie et puis l'accablement, un dérèglement de l'humeur. L'euphorie et l'accablement. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce que nous lisions tout à l'heure ce texte de 2 Corinthiens 6, où il est question de deux sortes de tristesse. De la tristesse selon Dieu, qui produit la repentance à salut, dont on ne se repent jamais, hein, c'est-à-dire cette tristesse qui conduit au salut par la repentance. C'est une tristesse salutaire Et la tristesse selon le monde, c'est une, la tristesse selon le monde dans le sens du péché, la tristesse selon le monde qui conduit à la mort. Il y a une tristesse qui conduit à la mort. Quand on me dit, Alain Chouaquier, est-ce que la Bible parle de la dépression ? Bien, voilà un texte qui en parle, de cette tristesse accablante, de cette douleur morale profonde qui conduit à cette anorexie vitale, laquelle conduit au désir de suicide, pour en finir avec une existence qui n'a plus aucune saveur, plus aucun goût. Et le dépressif, généralement, en arrive là. Précisons que la gaieté et la tristesse sont des fluctuations normales de l'humeur, mais dans des périodes déterminées. On peut être triste un moment et puis quitter notre tristesse pour d'autres états d'âme intérieurs. Mais la dépression, elle se caractérise par le fait que la tristesse se poursuit. Elle se poursuit, elle est constante, elle est là. Elle ronge le malade, elle le tue, elle l'accable. Et elle devient chez lui, comme nous le disions, une très grande douleur intérieure qui résiste aux meilleurs humoristes tels que Coluche ou de Funès. Hein. Un dépressif ne rit pas, lui, en entendant ces humoristes-là. Et on reconnaît justement un dépressif au fait que la plupart du temps, il ne sourit pas. Ou s'il tente de le faire, eh bien, c'est un rictus qui est sur son visage. Un rictus, c'est-à-dire un masque qui, disons, peut ressembler au rire, mais qui en réalité ne l'est pas. Le docteur Wildoschet, qui est aussi un éminent psychiatre à Paris, à la Salpêtrière, a dit ce qui suit: la dépression commence lorsqu'à la tristesse, au manque d'espoir, au pessimisme, s'ajoute un manque de l'activité, du tonus, des difficultés de concentration mentale, ainsi qu'une fatigue inexplicable.